France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir à l'isolement numérique. Ces zones blanches sans internet ou téléphone mobile. Une fracture numérique, symbole d'autres fractures entre ruraux et urbains par exemple. Une fracture numérique capable de faire fuir les jeunes d'un village et donc de faire baisser les prix de l'immobilier. Lutter contre les inégalités d'accès au numérique, c'était l'une des promesses du président Macron en juillet 2017. L'ambition était de couvrir en très haut débit l'ensemble du territoire d'ici à la fin de son quinquennat. En éliminant donc ces zones blanches, nous verrons que des déserts numériques subsistent près de 8 ans après. Or, le temps presse, car à partir de 2026, le traditionnel réseau cuivre d'Orange, en place depuis 50 ans, ne sera progressivement plus accessible. Il faudra alors migrer vers la fibre. Est-ce que ce calendrier imposé à Orange sera respecté? Nous en parlerons avec Laure de la Rodière, la présidente de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Et vous nous direz à quel point l'aménagement numérique du territoire est un sujet politique.
La reconnexion du pays au sens propre comme au sens figuré valait bien un deal, un new deal mobile. Je vous raconterai l'histoire d'un plan à très haut débit, presque sans accroc.
Presque. Bilan d'étape donc sur la connexion. Activité du territoire, on en parle dans Une semaine en France, jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage pour montrer qu'il existe des solutions alternatives aux principaux fournisseurs d'accès Internet, nous partons à Joigny, dans l'Yonne. Bonsoir Bruno Spickel.
Bonsoir.
Vous êtes à la tête de la SCANI dans l'Yonne. La SCANI, c'est la Société Coopérative d'Aménagement Numérique Iconèse. Pour faire simple, je dirais que vous êtes un fournisseur d'accès local pour apporter du réseau aux populations oubliées des grands opérateurs. D'ailleurs, comment est née cette aventure contre l'isolement numérique autour de Joigny?
De façon assez simple, on était plusieurs personnes à souffrir à différents niveaux de ce problème en 2010-2011. Un certain nombre de hasards de rencontres ont fait qu'on s'est rencontrés et que les talents se sont agrégés. Celui d'une association locale, celui de quelques geeks croisés dans le train, etc. Et puis, ben, contrairement à ce qu'on peut généralement croire, fabriquer un morceau d'Internet, ça se fait relativement facilement, surtout quand on le fait à une échelle locale et avec les bonnes volontés de chacun, entreprise, collectivité ou particulier, ça avance très très vite pour combler les petits problèmes.
Ça se fait relativement facilement, dites-vous, pour arroser les naufragés d'Internet. Vous avez quand même accroché une antenne donc sur un clocher du village voisin et vous orientez donc, si j'ai bien compris, les ondes de connexion Internet vers les zones blanches. C'est donc du sur-mesure que vous faites ?
C'est exactement ça, et c'est ce qui caractérise l'action qu'on mène et la possibilité qu'on a de le faire, c'est qu'on fait du très sur mesure, donc l'inverse, l'exact inverse de l'industrialisation. Et du coup, bah, on peut le faire, et effectivement, on fabrique les petits morceaux de réseau manquants, qui bien souvent sont manquants parce qu'ils n'ont pas de réalité économique.
Et qui sont vos clients? Enfin, je devrais dire vos sociétaires pour une coopérative?
Ah ben chez nous, on dit coopérateur. On a réellement de tout. Alors, une très grande majorité de particuliers tout de même, mais des mairies, des collectivités, des communautés de communes, des collèges, des lycées, des écoles, des associations, des entreprises, des exploitations agricoles. Il y a vraiment de tout.
Et donc, votre clientèle est donc celle que délaissent les gros opérateurs quand ils considèrent que ce n'est pas rentable d'aller dans les zones isolées, c'est ça ?
C'était la réalité ces 10 dernières années. Aujourd'hui, on se dirige plus vers des gens qui trouvent ça important de s'adresser à des locaux et à des gens physiquement et humainement accessibles plutôt qu'à des plateformes téléphoniques et des grands opérateurs nationaux. Mais on va dire qu'on a un subtil mélange des deux parmi les coopérateurs de la coopérative.
Oui. Alors c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, enfin jusqu'à maintenant. Mais comment vous regardez les gros opérateurs traditionnels? Ça se passe plutôt bien?
Ça se passe très bien puisque le monde d'Internet est finalement un tout petit monde et on a beaucoup de relations avec les petits camarades, comme on dit chez nous. Hein. Parce que un petit opérateur comme nous, on va pas aller s'amuser à tirer des câbles jusqu'à Paris, par exemple, mais on a besoin d'écouler du trafic avec Paris et on travaille avec d'autres opérateurs. Donc, dans 10 ans, je sais pas, mais ces 10 dernières années, ça s'est passé très bien parce que fondamentalement, on leur retire une épine du pied en allant s'occuper des gens qui ont plutôt tendance à râler le reste du temps.
Parce qu'il faut peut-être rappeler aussi l'impact sociétal d'un désert numérique. Pour un village, ça fait fuir, par exemple, les plus jeunes générations.
Ça fait fuir ou ça fait ne pas arriver ou ça fait capoter ou fortement baisser le marché immobilier, sauf pour des personnes qui cherchent ce genre d'endroit, parce qu'il en existe aussi.
Ça veut dire que l'accès à Internet, c'est bien un des symboles de la fracture entre le monde urbain et le monde rural aussi.
Ben, paradoxalement, je connais quelques exemples, alors c'est pas de l'ultra-urbain centre-ville de Paris, mais dans des villes de plus de 20 000 habitants, où en plein centre-ville aujourd'hui, c'est très très galère d'avoir la fibre. Avant, c'était dans des zones géographiques assez bien délimitées, aujourd'hui, c'est des petits trous dans la raquette à des tas d'endroits qui sont un enfer à lister pour des gens qui font de l'industriel.
Et parce que vous l'avez un peu évoqué, ce qui est le plus important pour vous, c'est une éthique, j'allais pas dire une morale, mais une éthique plus que le business, hein.
Ah bah complètement. Nous, à la limite, tant qu'à la fin de l'année, il reste des sous sur le compte en banque, on est content. Et on va surtout aller regarder quelle était la liste des problèmes en début d'année, combien on en a résolu et combien de gens sont contents et combien de gens sont pas contents.
Ça veut dire que contrairement aux puissants fournisseurs, vous ne cherchez pas à revendre les données numériques de vos abonnés. Quel est votre modèle économique en fait ?
Eh ben, chacun paye son abonnement à 30 euros par mois ou un peu plus s'il trouve que c'est une bonne idée de financer la coopérative de façon plus active, on va dire. Et puis, avec ça, on essaye de fabriquer l'Internet et les solutions aux problèmes de nos membres. Donc, c'est tout bêtement l'abonnement de chacun. On doit être à 32,50 euros de moyenne sur l'ensemble de la coopérative et ça suffit à la faire tourner.
Et il y a ceux qui viennent y adhérer par intérêt, même s'il n'y a pas des zones blanches, hein, ça veut dire qu'il y a de la place à long terme pour ce type d'Internet coopératif ?
Il y a de la place à long terme tant qu'il y a des gens qui ont envie de se placer dans un champ coopératif et local, oui.
Et cet Internet coopératif n'est pas menacé à terme par la fibre ? On va en parler ce soir.
Eh ben, on en fait aussi. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un petit 30% des connexions qu'on livre qui sont faites en fibre. Et les 70% restants sont faits sur l'ancien réseau radio qu'on a monté depuis 10 ans. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, il évolue plus énormément, enfin beaucoup moins vite que ce qu'il a pu évoluer par ailleurs. Et il a tendance à disparaître dans certaines zones, puisque à partir du moment où tous les membres qu'on a dans une zone nous disent « nous, on passe à la fibre », que ce soit avec nous ou avec d'autres opérateurs, on va pas s'amuser à maintenir un réseau qui n'a plus d'usage. Mais on le maintient là où il a encore de l'usage et on continue à le déployer là où j'en ai besoin.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Bruno Spickel, à la tête de la Scani dans Lyon. Merci de nous avoir montré que d'autres modèles étaient possibles parmi les fournisseurs d'accès à Internet. Merci beaucoup et bonne soirée. Nous étions à Joigny dans Lyon. Nous partons à présent à Fontaine-Daniel. C'est en Mayenne, hameau situé dans une cuvette, hameau classé aux monuments historiques, ici le téléphone mobile ne capte pas grand-chose. Et parmi les 160 habitants, il y a les résignés, il y a ceux qui cherchent des solutions et ceux qui se félicitent d'être à l'abri de tout échange numérique. Reportage sur la route, Guy Ventil.
Fontaine-Daniel, en Mayenne. C'est un très joli petit village avec des vieilles maisons en pierre, de granit, sa vieille fontaine, et je vois, j'ai pas de réseau.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour.
Martine.
Martine. Vous avez votre téléphone sur vous ou pas ?
Oui, absolument.
Montrez-moi combien vous avez de réseau, s'il vous plaît.
Ah, alors j'ai 2 barres.
2 barres.
Ah bah déjà, je peux essayer de passer un coup de fil. Déjà. Ben oui, nous sommes dans un environnement préservé, avec de grands arbres centenaires. Nous avons un air pur, mais nous n'avons pas accès aux nouvelles technologies.
Ah bah non, ça passe pas ici. Dans un village, ça passe pas.
Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de réseau, non ?
On capte pas avec les téléphones ici.
Ah mais vous captez rien du tout.
Donc aujourd'hui, zone blanche, c'est pas évident.
C'est vrai que le téléphone, maintenant, on nous l'a tellement mis dans les mains que maintenant, quand ça fonctionne pas, on s'énerve.
On nous appelle, nos téléphones ne sonnent pas.
Bonjour.
Alors moi, je m'appelle Élise Gleminchet. C'est une épicerie coopérative, un vrai lieu de vie. Et de vendre des carottes, c'est un peu l'excuse. C'était de maintenir un commerce de proximité dans un village de 160 habitants. Donc nous, on est un petit bourg qui s'appelle Fontaine-Daniel. C'est un hameau. On est dans une cuvette avec l'étang et la forêt qui nous entoure. Donc ça a créé une zone blanche.
Je regarde pendant que j'y suis, là, vite fait avec mon téléphone. Là, on a 0 barre.
Ah bah oui. Et alors, d'après ce que j'ai compris, il faudrait qu'on mette une antenne sur le toit de l'abbaye. Et le propriétaire n'est pas tellement favorable, je suppose. Les bâtiments de France non plus. Tout le village est classé à part les bâtiments de France. Donc aujourd'hui, zone blanche. En partie. Mais on n'est pas quand même complètement déconnecté, quoi. On a Internet et donc on est accès Wi-Fi public. Donc le boîtier a été installé sur la façade de l'épicerie. Pour tous les gens qui passent, là, c'est affiché à l'extérieur et à l'intérieur et vous avez un accès automatique.
C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui sont là, la même jour de pluie comme aujourd'hui, qui sont mis devant la façade.
C'est ça, on a mis la pergola en plus et puis là, elle est protégée. Et donc, on a régulièrement des gens le dimanche après-midi, le soir, pour faire les appels WhatsApp ou pour faire du télétravail parce qu'ils n'ont pas internet chez eux ou voilà, ils sont en vacances, donc ils viennent ici.
Bon, et pour aller capter, il faut que j'aille par où, vous m'avez dit ?
Au bord
pour avoir un peu de réseau ?
En hauteur, ouais. Ou au bord de l'étang ?
C'est par là-bas, là, c'est à gauche ?
C'est ça. Plus on est haut, plus on capte.
Voilà, je vais tester parce qu'il faut que j'appelle le bureau quand même. Merci. On parlait du réseau.
Eh bien, écoutez, il faut aller devant l'étang. En fait, vous sortez du restaurant, il faut commencer à se rapprocher de l'étang.
Peut-être que oui.
C'est par où ?
On est plutôt là-haut.
On capte un petit peu, mais au bord de l'étang et dans les hauteurs.
Alors, si vous vous mettez à cette porte-là...
Sous le balcon, là.
Là, vous avez une chance de capter.
Et voilà, c'est comme si on cherchait de l'eau à l'eau en face, mais là, on cherche du réseau et on est avec nos téléphones.
Et au milieu de la forêt, là, ça marche super.
En fait, on a plus du réseau dans la forêt que dans le village.
Il y a une grande forêt, là, Fontaine-Daniel. Là, ça fonctionne, nickel.
Faut aller au dernier étage, quoi. Et parfois, j'arrive à capter une barre.
Ah oui, oui, oui. C'est les bons plans des connaisseurs. Mais je ne partage qu'avec les gens du village, ou vous-même.
Ça peut me servir, là. Je dois passer un coup de fil au bureau. Je suis les conseils qui m'ont été donnés avec mon téléphone. Je sors et rien à faire. Toujours pas de réseau.
Bonjour.
Et là, je vois, vous êtes au téléphone.
Oui, ben...
Comment ça se fait ?
Un tout petit peu, ouais. Mais on a un tout petit peu de réseau parfois comme ça dans le village.
Là, vous avez combien de barres, là, vous ?
Une. Ouais, ça suffit.
Racontez-moi ce que ça fait d'être dans une zone blanche.
C'est agréable, on
ah bon
vit via taille humaine, quoi. On se rend compte, on se passe des messages par écrit, voilà.
Mais moi je pensais que j'allais arriver dans un village de sinistrés, les relégués de l'ère numérique.
C'est vrai qu'être moins sur les écrans, on est plus dans le moment, dans la rencontre, le partage, on fait autrement, quoi. Des fois on reçoit les messages une journée après, voilà, ça arrive.
Tu veux dire un mot ?
Mais Rosé, c'est ma copine.
Bon, merci beaucoup, bonne journée. Bonjour, messieurs, dames.
Moi, je m'appelle Antoine et j'étais prof ici. Et le village est assez joli parce que le site déjà est joli et très préservé, voilà.
Au point qu'il est préservé des ondes téléphoniques.
Voilà, et je crois qu'en Mayenne, finalement, on n'est pas si mécontent de ça.
Ah bon ?
Mais oui, on aime bien, comment dire, la tranquillité.
Mais là, je suis en train de penser à quelque chose, parce que moi j'étais prêt à m'apitoyer sur votre sort, de reléguer du téléphone mobile, mais je viens d'avoir un flash, c'est qu'on ne vous appelle jamais avec un 0162 pour vous offrir une super promotion sur les nouveaux forfaits ou sur les nouvelles fenêtres isolantes.
À Fontaine-Daniel, en tout cas, oui, dès qu'on se déplace à Mayenne, éventuellement, mais ici on échappe à ça.
Ici on échappe à ça,
voilà, c'est ça c'est
on relance téléphonique.
C'est ça.
Et ça c'est bien.
C'est exactement ça.
Oui. Pour nous c'est un luxe.
Le luxe de ne pas avoir de téléphone mobile, dit cette habitante de Fontaine-Daniel en Mayenne. Reportage de Guy Vanctil dans un de ces déserts numériques qui subsistent, même si tout le monde ne s'en satisfait pas. Bonsoir, Laure de la Rodière.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Et le dossier qui vous préoccupe en ce moment, c'est la migration de millions de Français qui devront abandonner le cuivre. Pour la fibre, à partir de 2026 jusqu'à 2030, on va y revenir. D'abord, concernant ces zones blanches, sachant qu'Emmanuel Macron avait promis en juillet 2017 de toutes les éliminer du territoire, 7 ans et demi après, lors de la Rodière, quel est aujourd'hui le pourcentage de zones blanches restantes sur le territoire ?
C'est une question un peu piège, parce que quand vous êtes en zone blanche, il n'y en a plus beaucoup.
D'accord.
Et le témoignage que vous avez cité sur Fontaine-Daniel est quand même assez édifiant, de se dire qu'il y a encore des villages en fait, qui sont en zone blanche, des villages entiers, Aujourd'hui, on a peut-être encore des hameaux, des zones très rurales qui n'ont pas du tout de téléphonie mobile, mais ça reste quand même relativement faible, là où il n'y a aucun des quatre opérateurs mobiles que l'on connaît tous, qui ne sont pas présents. En fait, dans les statistiques qu'on suit, et je prends des statistiques un peu qui concernent l'intérieur des bâtiments, parce que c'est ce que les gens veulent avoir, la connectivité à l'extérieur, bien évidemment, mais aussi à l'intérieur. Et en fait, moi, j'ai la statistique que 99% de la population française est couverte par au moins un opérateur. Mmh. Et si on cherche à avoir trois opérateurs, si, pour avoir le choix, parce que c'est ce qu'attendent les gens, ils n'ont pas forcément envie d'être imposés, d'avoir uniquement un opérateur, là on a 95% de la population qui est couverte. Mais bien sûr, le pourcentage restant, et les 5% restants, ils sont en milieu rural. Donc si vous faites une moyenne, ça peut faire un peu plus, naturellement, au niveau d'un département.
Donc une fracture numérique...
Le programme qui a été mis en place...
On va y revenir sur le programme.
Le programme qui a été mis en place dont vous parlez, le New Deal...
Vous souhaitez en parler maintenant, allons-y.
Mais il a quand même considérablement amélioré la situation. C'est-à-dire que, moi je me souviens, dans les années, à partir du milieu des années 2010, 2015, 2016, 2017, c'était le premier sujet de préoccupation en zone rurale, avec les problèmes de santé pour les citoyens. Et il y avait une demande, mais criante. Et maintenant, objectivement, quand je me déplace, moi, dans des zones rurales, j'y vais régulièrement, j'habite aussi un territoire rural, j'entends beaucoup moins parler de cette situation extrêmement irritante qui est « on n'a pas de couverture mobile, facilement ». Ce que j'entends dire, c'est « ah, j'ai pas tel opérateur ». Ça, oui, on me le dit. Et c'est quand même pénible parce que j'aimerais bien avoir tel opérateur.
Avoir le choix. Orange, vieil opérateur historique, doit donc fermer son réseau cuivre en 2030. Il s'agira de faire migrer près de 20 millions d'abonnés cuivre, je crois, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Comment va se dérouler cette migration vers la fibre ?
Alors d'abord, je voudrais dire que c'est un projet d'Orange. Parce que vous, dans l'introduction, j'ai entendu qu'il a été mentionné que c'est un calendrier qui est imposé à Orange. Non, c'est Orange qui a le projet de fermer son réseau cuivre, qui nous l'a présenté, qui l'a notifié. Nous, on l'a rendu public pour que les autres opérateurs puissent en avoir connaissance. Nous, ce que nous avons fait, en fait, c'est qu'on a posé des obligations qu'Orange doit respecter avant la fermeture du réseau cuivre.
C'est ce que je disais dans le mot imposé.
Et la première condition... Oui. Mais le calendrier n'est pas imposé à Orange. C'est lui qui l'a choisi. La première condition préalable, c'est que la fibre soit déployée dans les communes où Orange envisage de fermer le cuivre. Donc ça, c'est quand même extrêmement... C'est une condition extrêmement rassurante pour les Français. Et on veillera, et vous pouvez compter sur la vigilance de l'ARCEP pour faire respecter cette condition à Orange.
Oui, parce que Orange reconnaît qu'il ne sera pas prêt partout en raison de difficultés locales, dit-il. Ça veut dire quoi, des difficultés locales, d'ailleurs ?
Alors, il y a deux étapes, en fait, dans la fermeture du réseau cuivre. Il y a une première étape voulue par Orange, qui est la fermeture commerciale, c'est-à-dire il arrête de commercialiser
ça, c'est 2026.
Les abonnements cuivre sur une zone. Et il avait annoncé une fermeture nationale dans toutes les communes de France en même temps, en 2026. Il y aura certaines communes qui seront pas prêtes parce que la fibre ne sera pas généralisée. Là où la fibre sera généralisée, il fermera les communes. Et là où elle n'est pas généralisée, il y aura un report. Et après, il y a une deuxième étape, en fait, qui est la fermeture technique. Et là, il n'y a plus de services. Et donc là, les grosses lots, là où le nombre de locaux, en fait, va être fermé, le service sera plus disponible, c'est plutôt en 2029 et 2030. Donc on a quand même un petit peu de temps pour se préparer. Et pour se préparer, Orange a des expérimentations et des fermetures en fait sur des mailles en fait plus petites. Donc là, par exemple, le 31 janvier prochain, il y aura 162 communes qui n'auront plus de service du tout au cuivre. Et objectivement, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Donc ils testent en fait Orange en faisant lot par lot comme ça, testent le process industriel de fermer le réseau cuivre. Et pour l'instant, on doit dire que ça se passe plutôt bien
ça
sur les territoires.
Ça se passe plutôt bien, même si Orange annonce quelques retards de calendrier de la fin du cuivre. Ça obligerait d'ailleurs Free, SFR, Bouygues Télécom à continuer à louer le cuivre à Orange, ce qui ne sera pas le cas de la fibre d'ailleurs. Vous ne craignez pas que dans cette affaire, vous vous mettiez un peu finalement tous les opérateurs à dos ?
Tous les opérateurs aujourd'hui ont des démarches actives pour basculer leurs clients du cuivre vers la fibre. Et particulièrement les trois que vous venez citer, donc Free, Bouygues et SFR, puisqu'ils ont investi sur la fibre. Et donc, ils ont intérêt, en fait, à migrer leurs clients vers les réseaux fibres sur l'ensemble des territoires. Et ils sont très actifs commercialement. Et puis, les Français en ont le témoignage par l'ensemble des démarches commerciales qu'ils ont sur ce sujet. Et aujourd'hui, on a 73% des abonnements Internet qui sont déjà sur la fibre. Vraiment, la migration est déjà importante. Il y a 90% des locaux en France, c'est-à-dire des logements, des locaux commerciaux, des administrations, qui sont où la fibre est possible, c'est-à-dire le raccordement à la fibre est possible. Donc on voit qu'on est quand même dans un avancement vers la généralisation de la fibre et la prise d'abonnement à la fibre très très importante en France. On est un des premiers pays européens en matière de déploiement de la fibre et d'appétence des Français finalement pour cette nouvelle technologie.
Ça avance.
Un meilleur service, un meilleur accès à Internet.
Ça avance, c'est donc plutôt bien si je vous entends, même s'il y a quelques retards. Parmi les 35 000 communes de France, si le très haut débit n'arrive pas encore partout en 2026, comment feront les communes privées de leur réseau cuivre ?
Alors, je vous ai dit, pour les communes qui feront l'objet de la fermeture commerciale du réseau cuivre en 2026, la fibre sera déployée. Donc après, les citoyens peuvent choisir de se raccorder à la fibre, ils peuvent choisir, et ils peuvent le faire dès maintenant, d'ailleurs je leur conseille d'anticiper la fermeture du réseau cuivre, mais ils peuvent aussi choisir une solution alternative, hein, que ça soit une box 4G fixe, une box 5G fixe si la 5G est disponible, ou alors même des offres satellitaires. Quelquefois, il y a des travaux à faire pour se raccorder à la fibre en zone privée. Et quelquefois, les personnes n'ont pas envie, soit parce qu'ils sont locataires, qu'ils n'ont pas envie de faire des travaux. Et dans ce cas-là, ils peuvent aussi prendre une solution satellite, que ce soit Nordnet, Starlink ou Numérisat.
De leur choix. Et donc, je rappelle, pour les auditeurs, ça veut dire qu'à partir de 2026, d'un point de vue strictement commercial, plus aucun nouvel abonné ne pourra souscrire une offre cuivre ADSL. Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP, vous restez avec nous. On va continuer cette interview et vous nous présenterez notamment les outils, mon réseau mobile, ma connexion Internet, deux outils qui permettent aux Français de connaître l'état de la couverture du territoire à l'instant T. Et puis nous verrons avec Yaël Gauz à quel point l'aménagement numérique du territoire est un sujet politique. Sur France Inter, voici pour l'instant Michael Kiwanuka. Back when I was lost, stumbling around, you found me, now I can see my feet won't touch the ground. Fighting through the pain, no longer remain in that dark place. Lead me to the light, you don't seem to mind, standing in the rain. I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me be your last, there's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. Can't stand the sound of silence, is so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right now. The Rest of Me, le britannique Michael Kiwanuka, et merci à Djoubaka pour la programmation musicale. Vous écoutez Une semaine en France. À la technique ce soir, Ronan Mahé, Thomas Allard et Fabrice Desmaz. Il est 18h42.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France consacrée ce soir à la fracture numérique. Notre invitée, la présidente de l'ARCEP, Laure de la Rodière. Laure de la Rodière, pour passer du cuivre mis en place depuis 50 ans, encore faut-il convaincre les Français de souscrire un abonnement à la fibre et autres nouvelles offres. Mais pour certains, et notamment en zone rurale, c'est un coût qu'ils ne peuvent pas toujours s'offrir. Que préconisez-vous pour eux ?
Moi, je préconise surtout qu'ils prennent des conseils, c'est-à-dire qu'ils se renseignent, ils prennent des conseils, ils comparent et ils choisissent finalement l'offre la plus adaptée à la fois à leurs besoins et puis à leur pouvoir d'achat. La fibre, c'est légèrement plus cher que l'abonnement ADSL classique, mais ça offre aussi une technologie beaucoup plus puissante, un confort d'utilisation et peut-être des services qu'ils n'avaient pas avant. Après, il y a d'autres solutions, c'est ce que j'expliquais, que ce soit la solution satellitaire, que ce soit aussi la 4G fixe, pour pouvoir avoir accès à Internet chez soi.
On l'a vu et on va le revoir avec Yael.
Le marché des télécommunications en France qu'on régule, en fait, et on a à cœur de le rendre concurrentiel, fait que les offres, en fait, en France sont assez compétitives par rapport à la moyenne des pays européens, du fait, justement, de ce marché concurrentiel. Je doute pas que quand il y a une généralisation de la fibre complète, là, on est à 73% des abonnements Internet qui sont des abonnements fibre, mais que ce marché restera concurrentiel dans la durée.
Dans le gouvernement Bayrou, Clara Chappaz, qui a gardé son portefeuille à l'intelligence artificielle et au numérique, qu'attendez-vous d'ailleurs de ce ministère dans le vaste plan de migration du cuivre vers la fibre ? Vous avez son soutien ?
Le gouvernement soutient le projet de fermeture du réseau cuivre parce que intelligent, je dirais, d'un point de vue économique, de ne pas garder deux réseaux en parallèle. Si avec deux réseaux en parallèle, en fait, ça augmenterait le coût des abonnements pour les Français, parce que c'est lourd à maintenir. Donc c'est une bonne chose, dans la durée que Orange ferme son réseau cuivre, et je pense que le gouvernement partage cette idée. Nous sommes une autorité indépendante, donc nous posons nos règles sur le marché, les règles imposées à Orange, de façon indépendante par rapport au gouvernement.
ARCEP, autorité indépendante,
peut-être. Oui. Le fait qu'il porte politiquement aussi ce projet, parce qu'il faut rassurer les Français, en fait.
Vous souhaitiez un portage politique. Est-ce que vous l'avez obtenu, ce portage politique, justement ?
Portage politique, avec la situation politique récente, c'était difficile pour le gouvernement de pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc là, Marc Ferracci, qui est en charge les télécoms, je lui ai demandé, on va travailler là-dessus, parce que c'est important qu'il y ait une parole neutre, en fait, et qui rassure les Français en disant oui, le projet de fermeture du réseau cuivre, ça va arriver. Oui, il faut vous passer sur la fibre. Vous avez le choix de l'opérateur que vous voulez. Qu'on donne une crédibilité d'un neutre avec une parole politique au niveau du gouvernement pour prévenir les Français de se préparer à ce changement.
Yael Gauz, me tourne vers vous. Politiquement, donc, la France a su, en quelques années, relever le gant et réussir son maillage numérique sur tout le territoire, ou presque.
Oui, c'est le moment feel good de l'émission, parce qu'il y a eu une volonté politique réelle, Eric. On ouvre la boîte à archives. Emmanuel Macron qualifié pour le second tour en meeting à Arras le 26 avril 2017.
Cette égalité des chances, je veux d'abord la reconstruire en redonnant l'égalité des accès. 18 mois seront laissés aux opérateurs de téléphonie pour déployer partout la fibre ou la 3G et la 4G.
Et avant même les gilets jaunes, la crainte d'une France à deux vitesses, exprimée par Édouard Philippe dès le 3 juillet 2017, le Premier ministre dans son discours de politique générale.
Il y a des Français qui n'ont pas de GPS, pas de box connectée, dont le téléphone sert à téléphoner, et c'est tout. Il y a des citoyens qui sont broyés et ignorés par ce monde technique. Le fossé s'agrandit Nos services publics doivent accompagner ces évolutions et ces révolutions numériques. Nous les y aiderons.
Alors bilan, l'État a-t-il aidé ? Oui, massivement, et c'est pour ça que ça a marché. Je vous parlais tout à l'heure d'un New Deal mobile dans le sommaire de l'émission. C'est le nom qu'a pris ce plan lancé en 2018 pour inciter les opérateurs à passer la seconde, à mailler le plus vite possible le territoire. L'État renonçant à faire payer au prix fort les fréquences octroyées à Orange, Bouygues, SFR et Free. C'était ça le deal, Eric, un geste à 3 milliards d'euros en échange de leur engagement à ces opérateurs, engagement à gommer les zones blanches. Résultat spectaculaire, en 2017, vous aviez 11% du territoire en zone blanche 4G sans aucun opérateur, 11%. Aujourd'hui, c'est moins de 2%. On parle téléphonie, mais parlons aussi du plan haut débit Internet. Autant le plan câble, plus de 4 milliards d'euros dans les années 80, a été un échec parce que la technologie était déjà obsolète, autant le plan fibre est un succès. 38 millions de Français raccordés en 10 ans. C'est l'un des éléments qui explique l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers.
Donc globalement, un succès Yaël, mais quand on gratte un peu, on aperçoit encore quelques zones grises.
Et alors, on l'a entendu dans nos reportages, parce que vous pouvez avoir le sentiment d'être en zone blanche, alors que dans les faits, vous avez au moins accès à un opérateur. Il en suffit d'un sur les quatre pour que vous ne soyez plus techniquement considéré comme relevant d'une zone blanche. Je vous disais à quel point, depuis 2018, tout s'est accéléré, mais dans certains territoires, il y a besoin d'un dernier coup de collier. Je pense notamment au Puy-de-Dôme, département montagneux, donc moins facile à couvrir intégralement, et où les élus que j'ai au téléphone me disent qu'il faudrait planter encore 80 à 85 pylônes. Des antennes qui crispent localement, on le sait, moins pour des raisons de santé publique maintenant que pour la verrue dans le paysage. Des batailles mairie contre riverains, vous en avez un peu partout encore aujourd'hui. Je pense à la commune de Bullion, dans la vallée de la Chevreuse. L'antenne doit faire 42 mètres de haut, plus grande que le clocher et que la forêt tout autour. Oui, mais le maire vous expliquera qu'il y a eu récemment une explosion de gaz et que les pompiers n'arrivaient même pas à joindre leurs casernes faute de réseau.
En 2030, le réseau cuivre aura totalement disparu au profit de la fibre, donc tout le monde, ou presque, sera hyper connecté, mais ça soulève aussi un autre problème.
Il ne suffit pas d'être branché, Eric, il faut savoir pourquoi on est branché. Connaissez-vous l'électronisme ?
Oui, c'est une fracture
l'illettrisme numérique, ben, en fait, hein, cette incapacité à maîtriser Internet et ses outils. Claire Hédon, la défenseure des droits, en parlait très bien sur France Inter en février 2022.
Une personne sur cinq n'a pas chez elle ni d'ordinateur ni de tablette et un jeune sur quatre de 18 à 24 ans dit avoir du mal à faire des démarches en ligne. Et donc ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Ils n'arrivent pas à faire les démarches, du coup ils ont du mal à accéder à leurs droits.
13 millions de Français qui galèrent, nous dit l'INSEE. C'est aussi ça le prochain défi politique, raccorder tout le monde physiquement et intellectuellement au numérique.
Lors de la Rodière, présidente de l'ARCEP, il existe un outil qui permet aux Français de connaître les zones blanches et donc la couverture mobile sur le territoire. Ça s'appelle Mon Réseau Mobile. Pour Internet, ça s'appelle Ma Connexion Internet. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Oh, c'est assez simple, c'est un outil de cartographie. Vous allez, vous tapez mon réseau mobile sur Internet, vous arrivez sur un outil cartographique, vous mettez votre adresse et vous regardez, vous avez une carte qui s'affiche. Vous avez la possibilité de choisir les opérateurs que vous voulez, Bouygues, Free, Orange, SFR. Vous avez la possibilité de choisir si vous voulez la couverture voie SMS ou la couverture Internet mobile. Et vous voyez quel est l'opérateur chez vous, en fait, qui a la meilleure couverture.
Merci beaucoup et je précise que c'est valable aussi pour l'Outre-mer. Merci beaucoup Laure de la Rodière venue faire ce bilan d'étape et on suivra donc sur France Inter ce calendrier de passage au cuivre, du cuivre à la fibre. Merci beaucoup et bonne soirée. La suite d'une semaine en France. Dans un instant, l'actualité en région avec nos confrères du réseau ICI. Étape notamment à Auxerre qui s'inquiète de la disparition de lignes TER entre petites communes.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés.
Le cœur du monde, c'était Bernard Lavillier. Une semaine en France jusqu'à 19h, c'est aussi une équipe. Maria Pasquet à la réalisation, Frédéric Barrère à la rédaction en chef. Un grand merci à Aurore Mansip et Julie Deltay qui m'ont aidé à préparer cette émission.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région à présent avec l'indispensable concours de nos confrères du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes de ICI Isère, ICI Normandie et ICI Auxerre. Alençon d'abord, Alençon Benoît Martin, un procès en assises n'a pas pu se tenir. Il manquait 2 membres du personnel des services pénitentiaires.
Et oui Eric, lors de ce procès en appel, la cour devait se prononcer sur les cas de 2 hommes condamnés en première instance pour l'assassinat d'un jeune de 18 ans abattu d'un coup de fusil dans le dos. C'était dans un quartier de Caen en 2020. Seulement voilà, lundi dernier, jour prévu pour l'ouverture de ce nouveau procès, il n'y avait pas les personnels pénitentiaires en nombre suffisant pour extraire de sa cellule l'un des 2 accusés incarcérés au Havre. Le problème du manque d'effectifs avait été identifié depuis plusieurs jours, mais aucune solution n'a pu être trouvée. Et pour 2 agents manquant, la présidente de la cour d'assises de l'Orne a été contrainte de rendre une ordonnance de renvoi, autrement dit d'ajourner le procès.
Et il faut dire aussi, Benoît, que les règles d'escorte des accusés ont changé depuis l'attaque d'Incarville.
Oui, c'était en mai dernier, l'attaque du fourgon dans lequel se trouvait le détenu Mohamed Amra. 2 agents pénitentiaires avaient trouvé la mort. Les règles de sécurité ont donc été revues à la hausse pour certains détenus jugés à risque. Mais les moyens de l'administration pénitentiaire étant ce qu'ils sont, ça coince parfois, comme cette semaine. En attendant une future date pour le procès, 5 ans déjà après l'assassinat, la famille du défunt va devoir patienter encore et la chambre de l'instruction a dû autoriser une prolongation exceptionnelle de 6 mois de la détention provisoire des 2 accusés. Car le délai normal entre le premier procès et l'appel est dépassé. Bref, Eric, la justice a dû bricoler.
Ouais, nous partons en Isère. Lionel Cariou, le chimiste français Arkema, envisage 150 suppressions de postes sur son site de Jarry. C'est la conséquence de la fermeture d'une grande partie de son fournisseur, Vancorex.
Et oui, la nouvelle a été annoncée en CSE mardi, 154 emplois supprimés sur un total de 344. Ça concerne donc le site de Jarry, on est au sud de Grenoble, sur la route vers les stations de Loisans. Un mouvement de grève était déjà entamé car les salariés étaient au courant qu'une réorganisation était en cours. En fait, c'est l'effet domino qui a joué car dans le même secteur, à Pont-de-Claix, à quelques kilomètres, Vancorex est en redressement judiciaire. Le seul repreneur, un groupe chinois, prévoit de ne conserver qu'une seule partie de l'activité, les composants pour les peintures, soit 50 emplois sur un total de 460. Or, Vancorex fournissait du sel à Arkema pour la fabrication de dérivés chlorés, et cela depuis des décennies. La rupture d'approvisionnement en sel, c'est ce que met en avant la direction d'Arkema pour justifier son plan social. Ça met bien sûr en difficulté tout un tissu économique local. Il y a les salariés, évidemment, mais aussi les sous-traitants, les commerces également. Par exemple, une restauratrice de Champs-sur-Drac dans ce secteur nous expliquait que les ouvriers d'Arkema, ça représentait 60% de sa clientèle.
Et il n'y a pas que l'industrie de la chimie qui est en difficulté.
Et non, on vient d'apprendre, là, il y a quelques heures, que l'usine Photowatt de Bourgoin-Jallieu a engagé une procédure de fermeture. Une info du Dauphiné Libéré qu'ici Isère a pu confirmer. On est dans le nord du département. Cette fois, cette usine, elle produit des panneaux solaires et elle est en difficulté depuis des années face à la concurrence chinoise. EDF Renouvelable, le propriétaire, cherchait un repreneur. Ça n'a pas marché. Le seul candidat s'était retiré en novembre. Photowatt, c'est 162 salariés. On verra les mesures d'accompagnement et de reclassement. Et puis toujours dans cette partie nord du département, il y a aussi un plan social chez l'équipementier Valeo. Bref, l'industrie vit des heures compliquées, difficiles en Isère.
À Auxerre, à présent, Léni Flouva, encore des petites lignes TER qui risquent d'être supprimées, notamment la liaison entre Avallon au sud de Lyon et Clamecy au nord de la Nièvre.
Oui, un double bras de fer, Eric, est engagé pour conserver ces lignes vieillissantes. D'un côté de la barrière, les habitants, ils étaient 400 à crier leur colère le week-end dernier à la mairie de Clamecy. C'est aux portes du Morvan. Eux ne veulent pas que leur train soit remplacé par des autocars. Cela représente 3 à 4 allers-retours quotidiens sur place. On dénonce en fait une volonté d'économie de la région. De l'autre côté des voies, la Bourgogne-Franche-Comté, elle, dément et renvoie la balle à l'État et à SNCF Réseau. Elle donne un chiffre, un investissement de près de 500 millions d'euros nécessaires pour rénover l'ensemble des petites lignes des 8 départements bourguignons et franc-comtois.
Oui, et ces menaces de disparition de trains, eh bien, ça pose aussi une vraie question d'attractivité pour les petites villes et les villages.
Pour les habitants de longue date, mais aussi pour les néo-ruraux de l'après-Covid, beaucoup d'entre eux ont été séduits par le Morvan. Comment ne pas l'être, ses forêts, ses lacs et surtout sa ligne quasi directe quotidienne vers la capitale, Paris. Donc si ces trains sont remplacés par des cars, toute une population de nouveaux habitants menace de faire demi-tour, de partir de ces villages qui commençaient à retrouver une dynamique positive en soi, d'être sur de bons rails.
Eh bien, merci à tous les trois à l'actualité d'ici et d'ailleurs, dans un instant, le journal de 19h.